France Inter. La comédienne, scénariste et réalisatrice Valérie Donzelli se démarque depuis le début de sa carrière par son univers fantaisiste, lyrique, pop et affranchi. Elle a tourné pour Guillaume Niclou, Anne Fontaine, Alain Guiraudy, Joachim Lafosse, Benoît Jacquot, Dreddy One, Cédric Kahn ou encore la regrettée Sophie Filière, ainsi que dans la série télévisée Clara Scheller. Derrière la caméra, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi devant, elle a notamment réalisé La Reine des Pommes sur un chagrin d'amour, La Guerre est déclarée, récit autobiographique sur la tumeur au cerveau de son petit garçon de 18 mois, Main dans la main sur un sortilège amoureux, Marguerite et Julien d'après un scénario de Jean Gruau pour François Truffaut et L'amour et les forêts d'après le roman d'Éric Reinhardt, dont l'adaptation avec Audrey Diwan lui a valu un César. Pour Arte, elle imagine la série Nona et ses filles et suit une jeune élève ayant décidé de monter Hamlet dans le documentaire Rue du Conservatoire. Elle vient d'adapter un deuxième roman, À pied d'œuvre, de Franck Courtès, qui a déjà reçu le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise. Paul Marquet, incarné par un Bastien Bouillon tout en retenue, abandonne sa carrière de photographe reconnu pour se consacrer pleinement à l'écriture. Il survit de petits boulots dénichés sur une plateforme où l'homme à tout faire le moins coûteux remporte les enchères. La frontière entre précarité et pauvreté s'affine et son entourage ne comprend pas son choix. Quel est le prix de la liberté artistique et même de la liberté tout court ? Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Valérie Donzelli.
Bonsoir, est-ce que je peux ajouter quelque chose
évidemment.
À ce que vous avez dit J'aimerais quand même qu'on parle de Sandrine Wessé qui m'a offert mon premier grand rôle au cinéma, qui est Martha Martha.
Bien sûr, j'ai failli la mettre dans l'introduction, mais j'ai essayé d'écourter.
Ah d'accord, mais oui. C'est quand même plus important pour moi que Bonello, où j'ai fait une toute petite apparition.
Vous avez raison de le dire.
Voilà, et puis je voulais aussi dire que les films, c'est un peu comme mes enfants, donc je voudrais pas faire de jaloux. Et après Marguerite et Julien, il y a Notre-Dame, qui est ma comédie sur l'échec.
Et je comptais vous en parler dans l'émission.
D'accord.
En fait, si je fais pas d'ellipse dans l'introduction, l'introduction dure un an. Parce que si je dis tout ce que vous avez fait...
Pardon, et moi je me suis dit, oh, le pauvre Notre-Dame et tout.
Non, non, il ne passera pas à la trappe, ne vous inquiétez pas.
D'accord, tout va bien.
Bah, question obligatoire de début d'émission, ouais. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Ah bah le défilé Jacquemus où je suis allée avec mes enfants.
Ah c'est vrai, vous y étiez ?
Oui, parce que j'ai fait des petits films de fiction pour annoncer le défilé qui s'appelle Le Palmier. Et donc on a fait des petits films complètement absurdes et drôles où je joue tous les rôles et où j'ai embarqué toute la semaine avec moi et tout ça. Et donc on est invité au défilé et c'était très rigolo.
Alors vous êtes née à Épinal, quelle est votre image d'Épinal ?
Ah là là, qu'est-ce que c'est mon image d'Épinal ? Qu'est-ce que j'ai comme image d'enfant ? Je sais pas, un ballon de foot, une corde à sauter, un élastique.
Ouais, c'est pas mal. Vous étiez forte à l'élastique ?
Ouais, j'étais surtout très sportive.
Ah, j'étais nulle à l'élastique.
Ouais, moi j'étais super forte. Non, wow. je faisais du sport. Enfin, j'étais très active.
D'accord.
Je faisais beaucoup de sport, ouais.
Et de foot ?
Ouais, je faisais du foot, je faisais de l'élastique, je faisais beaucoup de gymnastique au sol, beaucoup d'agrès, tout ça. Waouh !
Ouais, ouais. Wow. Alors, je suis très impressionnée.
Ouais, mais j'ai fait ça petite. Hein. Après, j'ai arrêté, j'ai plus fait de sport.
Mais vous vous imaginez danseuse au lido ou gymnaste ?
Ah ouais, j'aime bien la danse, ouais. J'aurais adoré, ouais. Non, je me suis jamais imaginée gymnaste et tout ça, parce que je déteste la compétition, je suis trop mauvaise joueuse. Mais en revanche, j'adore danser.
Et pourquoi speakerine ?
Parce qu'à l'époque, moi je suis née en 73, donc les speakerines c'était quand même assez important à la télévision. Et surtout, c'était vraiment le rôle des femmes, il n'y avait pas beaucoup de journalistes, les femmes étaient à la télé en tant que speakerines. Et j'étais complètement fascinée par leur féminité, elles étaient souvent hyper bien habillées, hyper maquillées, hyper belles et tout. Et elles parlaient comme ça des heures sans rien faire et je trouvais ça complètement fascinant. Et je m'amusais à les imiter. Donc je trouvais ça cool quoi.
Bah oui, moi je trouve aussi ça cool.
Et donc, pendant des heures, je jouais à ça, à réciter le programme télé, à dire « chat et spectateur ». Alors à 14h, nous avons... Enfin vraiment, ça durait des heures.
Ah bah
après, j'ai
embauche.
Fait de la radio.
Ah.
Ouais, avec mon magnétophone.
Qu'est-ce que ça donnait ?
Bah, je faisais plein d'émissions de radio, j'interviewais toutes les grandes stars, je faisais des publicités, je faisais des émissions intellectuelles, genre comme Michel Pollack et tout ça. Enfin, j'aimais bien imiter. C'est vrai.
Alors là, attention, je vais parler de votre film Notre-Dame, quelle surprise.
Ah, oh, je vous ai gâché votre...
Non, c'est pas grave,
je suis désolée.
Mais
pardon.
Non, puisque l'héroïne est architecte, ouais. Et vous avez fait des études d'architecture interrompues.
Oui, c'est vrai.
Et vous dites que vous vous débrouillez mal à l'école, que vous auriez aimé faire l'école boule, que vous avez quelque chose de manuel, mais...
Ah ouais. J'aurais adoré, moi, faire un CAP ou quelque chose. Enfin, en fait, j'avais beaucoup de difficultés à l'école, surtout... Bon, je dis ça, j'ai quand même eu mon bac et tout ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai le souvenir que l'école n'était... En fait, j'arrivais pas à rester assise 8 heures pour écouter quelqu'un. Donc j'étais très déconcentrée, j'avais des problèmes de concentration et surtout je m'inventais des histoires. Donc je rentrais chez moi, je savais pas ce qu'on avait raconté dans la journée. Mais en revanche, j'aimais bien faire des maquettes, j'aimais bien faire le MT, j'aimais bien réciter des poésies, lire à haute voix, des trucs comme ça. Mais sinon, le reste, c'était plus difficile, ouais.
Alors c'est drôle parce que Gilles Marchand, avec lequel vous avez collaboré, dit de vous, et là il parlait de Dans la forêt.
Ouais.
Au moment de l'écriture, Valérie peut taper sur l'ordinateur d'une main, étendre le linge, donner le bain aux enfants et préparer une bricole à manger, cuisiner, écouter, ranger, déranger. Je ne connais personne qui a ce point besoin de faire.
Oui, c'est vrai. Bah, en fait, c'est pas que j'ai besoin de faire, c'est que je peux pas faire autrement. Je crois que quand on est une femme, on est une addition de choses. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on arrête de travailler. Donc on a des enfants, mais on continue de travailler. Et puis quand on travaille, on est quand même une mère, puis on est une femme, puis on est... multitude de choses. Donc c'est pour ça qu'on fait tout en même temps. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais écrit un texte autour de Niki de Saint-Phal, et Niki de Saint-Phal, elle a impliqué ses enfants dans ses films et tout ça, mais parce qu'elle les avait avec elle, en fait. Et c'est pareil pour Agnès Varda. En fait, quand on fait des films, moi j'ai fait des films et j'ai fait des enfants un peu en même temps, ben le cinéma prend tellement de place qu'on partage notre travail avec nos enfants. Ils nous voient écrire, ils nous posent des questions, puis après on va tourner, puis on dit, bah viens, tiens, il y a un besoin d'un petit enfant, tu veux pas passer dans l'image. Enfin, c'est une façon de faire, parce que justement, on n'a pas trop de frontières dans notre travail.
Est-ce qu'on paye ses enfants quand on les met dans ses films?
Ah bah oui, quand il y a de l'argent, on le fait. Quand il n'y en a pas, on le fait pas.
D'accord.
J'ai pas payé Rebecca pour La Reine des Pommes, par exemple.
Ah,
c'était
d'accord.
Un bébé gratuit.
Faut pas qu'elle écoute cette émission plus tard. Est-il vrai que le tournage de Notre-Dame s'est achevé le jour de l'incendie de Notre-Dame?
Le montage s'est achevé le jour de l'incendie de Notre-Dame.
Ça vous a fait quelque chose?
Ah
vous
oui,
croyez
j'ai
pas
pleuré. Ah oui, ah ouais, vraiment, ça m'a bouleversée.
Vous avez fondé avec Jérémy Elkaïm la société de production Les Films de Françoise. Pourquoi Françoise?
D'abord parce que je trouvais ça chouette, parce que toutes les sociétés de production, c'était à un moment, elles s'appellent Les Films du Requin, Les Films de je sais pas quoi, enfin c'est toujours des noms un peu menaçants, genre un peu viril et tout, et je trouvais que Les Films de Françoise, c'était joli. Tout le monde connaît une Françoise, c'est un prénom que j'aime beaucoup, mon père s'appelait François. Et voilà. Mais et c'est vrai que j'ai fondé ça après la guerre est déclarée. Et maintenant, je suis toute seule dans cette société. Et j'espère bien la faire marcher, quoi.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Adèle, je n'ai pas d'explication. Des douleurs abstraites qui me font souffrir. J'étouffe.
J'étouffe.
La fin de notre histoire.
Je vais mourir.
Ah non, 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 non.
Aujourd'hui encore, c'est un peu dur. Je souffre, étranglez-moi.
Il faut que tu couches avec d'autres hommes. D'autres hommes.
Vous voulez bien qu'on se revoie demain?
Ce sera avec plaisir.
Valérie Donzelli, on entend un extrait de votre premier long métrage, La Reine des Pommes, qui est aussi le titre français d'un roman de Chester Himes, mais ça n'a rien à voir. C'est une femme qui tente de se consoler d'une rupture, et c'est le même acteur, Jérémy Elkaïm, qui incarne tous ses amants. La question est la suivante, êtes-vous obsessionnelle en amour, ou dans le champ artistique, ou dans les deux?
Non, je suis pas obsessionnelle. C'est quoi être obsessionnelle? C'est être en boucle sur un truc,
ouais,
et tout ça? Non, je suis déterminée. Je suis envahie, je suis emportée, tout ça, mais je suis pas obsessionnelle, je crois pas.
Dans La guerre est déclarée, vous traitez d'un sujet très grave avec tout de même de la fantaisie. Est-ce que vous êtes pareil dans la vie? Est-ce que même dans la tragédie, vous arrivez à plaisanter?
Je suis plutôt d'un tempérament gai. Je suis rarement de mauvaise humeur et tout ça. Maintenant, ça dépend quelle tragédie, en fait. Par exemple, à la mort de mon père, j'ai pas plaisanté. J'étais juste dans le chagrin. Ça dépend combien de temps dure la tragédie. Si elle est longue, au bout d'un moment, effectivement, je pense que la vie reprend le dessus, donc le rire. Le rire, c'est la vie pour moi. Oui, il y a toujours de la vie dans la tragédie. Donc oui, quand même, je dirais oui.
Vous dites que la maladie de votre fils a changé votre rapport au temps et à l'adversité, ouais. Et que vous êtes mise à faire des films comme une nécessité vitale. Est-ce ouais. que c'est toujours le cas? Et j'aimerais bien connaître votre rapport au temps et à l'adversité.
Alors oui, je pense que c'est toujours le cas, mais je dirais que... En fait, je crois que faire des films, c'est une façon de le retenir, le temps. En fait, c'est vraiment quelque chose pour conjurer la mort et laisser une trace, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Et c'est pour ça que... Alors, je fais aussi des films parce que c'est mon travail, hein, c'est une façon de gagner ma vie. Mais je pense que c'est toujours vital.
Main dans la main d'Élie Jacquemot, que j'essaie de diffuser dès que je peux. Vous avez fait un film qui s'appelle Main dans la main, Valérie Donzelli. Et c'est une histoire d'amour entre un artisan de province et la directrice de l'Opéra de Paris, qui après un baiser volé se retrouvent collés l'un à l'autre. Vous avez aussi fait le téléfilm Que d'amour, d'après Marivaux, avec la Comédie Française, pour Arte. Et l'amour, la fusion, ça charrie beaucoup de vos films. Vous avez dit dans une interview, l'amour agit comme un poison, il est le médicament et en même temps la maladie.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que c'est un sortilège de tomber amoureux. On est plus complètement dans une réalité, quoi. On idéalise quelque chose. Alors parfois, on a de la chance et cet idéal correspond à peu près à notre tempérament et voilà. Et puis parfois pas du tout, puis ça se casse la figure, quoi. Mais oui, c'est un peu le remède et le poison, c'est vrai.
Vous avez peur de vous abîmer ou vous prenez facilement des risques?
Ah non, moi je suis j'ai une vie très risquée. Je suis une vraie aventurière, c'est vrai. Oui, j'y vais puis après je réfléchis, quoi.
Je vais un peu vous expliquer pourquoi ce film ne s'est pas fait. C'est une histoire d'inceste. C'est Susan Chipman qui était assistante de François et qui donc cherchait des idées. Qui un jour a vu dans elle un article sur cette histoire. Alors elle a porté ça à François, elle a dit « Non, ça sera un truc pour Bruno et pour toi, vous aimeriez faire ?» Elle a dit « On a regardé, et on s'est tout de suite emballé. » Alors je développe ce scénario, il est enchanté, et puis au bout d'un certain temps, il me dit « On ne va pas le faire. » Ben voilà, c'est trop à la mode. Je ne veux pas suivre la mode, il était opposé à suivre la mode.
On entend Jean Gruaud qui retrace la genèse du scénario Julien et Marguerite qu'il avait fait pour Truffaut et que vous avez réalisé, Valérie Donzelli, puisque ça ne s'est pas fait par Truffaut. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette expérience? Parce que vous vous attendiez à ce que le film ne fasse pas l'unanimité, mais pas à ce que les gens soient aussi braqués. Et je crois que vous avez rencontré Jean Gruaud.
Ouais, alors non seulement j'ai rencontré Jean Gruaud, mais j'ai travaillé avec lui. Donc en fait, j'ai réadapté le scénario. Moi, ce qui m'a plu, c'était, d'ailleurs, je suis un peu effarée, c'est marrant, hein, l'époque quand même, et Jean Gruaud me l'avait dit, hein, il m'avait dit Truffaut voulait plus faire le film parce que c'était à la mode. Je lui ai dit, mais comment ça peut être à la mode, quoi? Comment on peut... Il me dit, oui, mais c'était les années 70, la liberté des mœurs. Je lui ai dit, mais c'est pas une question de liberté de mœurs, en fait. Donc, c'est très intéressant, et pour moi, il est très important de reparler de ce film et du malentendu, je pense, qu'il y a eu autour du film. Moi, le film, mon film, il s'appelle... L'histoire de Marguerite et Julien. Et j'ai voulu, quand j'ai lu le scénario, ce qui m'a paru intéressant et évident, c'est de raconter la liberté d'une jeune femme qui préfère mourir que d'être casée dans un couvent ou mariée avec un homme qu'elle déteste et qui est violent. Et il se trouve qu'elle aime son frère, mais cet amour n'est pas du tout vu comme quelque chose de beau et romanesque, mais vu comme une maladie qui va contaminer toute une famille, en fait. C'est une tragédie. Donc je ne fais en aucun cas l'apologie de l'inceste, comme il a été dit, et j'étais vraiment choquée par ses propos.
Et comme dans Lolita, par exemple, qui est souvent très mal interprétée.
Oui, alors ça, c'est encore...
Mais Nabokov dénonce...
Oui, bien sûr, mais c'est encore un autre sujet, quoi. Mais moi, dans l'histoire de Marguerite et Julien, je ne fais pas l'apologie de l'inceste. Dans l'histoire d'origine, effectivement, il est beaucoup plus âgé qu'elle, et moi, je les ai ramenés à un âge... plus proche, où il n'y a pas justement d'emprise de qui que ce soit sur qui que ce soit. Il se trouve que elle aime son frère passionnément, lui il aime sa sœur, il résiste, il lui dit non, 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 et à un moment donné, c'est sa liberté. Elle dit mais moi je préfère mourir que de... Voilà, j'ai pas d'autres possibilités. C'est une jeune femme à qui on ne veut pas donner d'instructions, qui a une vie de merde en fait, et elle se révolte contre ça. Et c'était très important pour moi d'en faire un conte. C'est un film que j'ai voulu faire presque pour les enfants. C'est raconté par des enfants au départ. Et les gens n'ont rien compris au film. Alors, je dis pas du tout que mon film est réussi ou quoi ou qu'est-ce. Et j'assume complètement l'imperfection de mes films, etc. Mais moi, c'est un film que j'aime énormément. J'ai adoré réfléchir à la mise en scène de ce film. J'ai adoré toutes les inventions, tout ce qui s'est passé autour de ce film. C'est juste un film qui a été incompris et maudit. Et que j'ai revu et que je trouve vraiment très beau. Et c'est vrai qu'il a été très sévèrement jugé, mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Il faut de toute façon tracer sa route et continuer. Et ça ne dit en rien les succès, les échecs sur les films, la vérité des films. Tout le monde le sait.
Là, vous venez d'évoquer l'enfance, et en parlant d'enfance, vous le disiez tout à l'heure, vous voyez vos films comme des enfants, et vous dites que quand on est metteur en scène, on est connecté avec sa part d'enfance. Alors, je voudrais savoir quel enfant vous étiez et quel enfant vous êtes aujourd'hui.
Alors, j'étais une enfant très joyeuse, très angoissée aussi, et très active, quoi. Donc, je ne m'ennuyais jamais. Et aujourd'hui, l'enfant que je suis, ben c'est l'enfant qui fait du cinéma, en fait. C'est ma part d'enfance, elle est consacrée à mon travail.
Dans le jeu.
Dans l'écriture, dans l'imaginaire, dans l'amusement de faire des films, dans le jeu quand je joue comme actrice, dans tout ça.
On a parlé d'amour, bon, on va parler de mort forcément, elle est jamais loin hein, de l'amour. Vous dites que vous l'avez terriblement observée et que vous êtes outrée par elle, et qu'en même temps vous savez que la vie a cette saveur parce qu'il y a la mort à la fin. Et puis vous concluez en disant « je veux bien mourir si j'ai eu la vie que je voulais, pleine d'amour, à donner et à recevoir ». Où en êtes-vous de cela ?
Eh ben alors, je pense que je fais un petit déni avec la mort.
On est beaucoup dans ce cas-là.
Non, il y a des gens qui y pensent tout le temps. Moi, j'y pense jamais.
C'est vrai ?
Ouais, je pense pas à la mort. Je n'ai pas du tout envie de m'encombrer de ça. Mais en revanche, c'est pour ça que je vous parle de déni vraiment, c'est que je n'y pense jamais. Je suis persuadée que je vais mourir à 105 ans en faisant une petite sieste et tout. J'ai l'impression que ma vie est devant moi. Mais en même temps, j'ai bien vécu et je suis hyper contente de tout ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression que ça ne fait que commencer, quoi. J'ai encore plein de choses à faire et j'ai une espèce d'enthousiasme comme ça. Donc, je pense que je suis un peu dans une forme de déni, quand même.
Je vous parle d'un endroit que vous, les hommes, ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la douleur des règles ni celle de l'accouchement. Vous ne connaissez pas l'injonction d'être mince, d'être belle, d'avaler des pilules pour ne pas avoir d'enfants. D'être épilé, bien habillé, pas trop long, pas trop court, pas trop surtout, mais pas trop quoi. Être une femme sans être une menace. Être une femme en restant à sa place, mais laquelle ? Celle donnée par les hommes dans un cadre restreint. Je vous parle d'un endroit qui n'existe pas. D'un endroit pour lequel je me suis battue. Le droit d'avoir ou non des enfants. Le droit d'avoir une sexualité libre. Mais je suis enceinte à un âge où ça n'arrive plus.
La vache.
Vous croyez pouvoir le dire à tout le monde ?
Ouais.
Et le secret ?
Bon.
Fuir en toute liberté.
Il n'y a plus de secret.
2021, la charmante série Nona et ses filles que vous avez co-écrite, Valérie Donzelli avec Clémence Madeleine Perdria, et c'est Miu Miu qu'on entendait, qui est une militante féministe dedans, responsable du planning familial, qui tombe enceinte à 70 ans. Vous jouez l'une des filles qui s'appelle Georges.
Ouais.
Je crois que vous aurez bien aimé être un garçon.
Bah oui, parce que quand, je le dis encore une fois, je suis née en 73, donc c'était quand même plus simple. Pour jouer, pour faire pipi dans la rue.
Mais vous faites pipi dans la rue ?
Non, mais quand on est une fille, c'est chiant. Mais quand on est un garçon, je me souviens, les garçons, il y a... Puis...
Oui, bah, je me souviens, moi, c'est il n'y a pas si longtemps que j'en ai vu.
Ah non, mais ça, c'est insupportable. Ah, moi, je ne supporte pas. Aujourd'hui, je trouve ça scandaleux, quoi. Mais quand on est petit et qu'on joue dehors et tout ça, nous, il faut qu'on retourne à la maison, il faut qu'on revienne, puis on a l'impression de louper quelque chose. Enfin, il y a c'est toute une organisation.
Après, vous avez fait L'amour et les forêts d'après le roman d'Éric Reinhardt, César de la meilleure adaptation avec Audrey Diwan pour le scénario, sur la mécanique d'emprise d'un homme sur sa femme. Et j'ai l'impression que vous vous approchiez de plus en plus de la sombreur.
Oui, c'est vrai que ça m'a vraiment plu de faire un film noir, en fait. Et d'aller vers le genre, comme ça, d'angoisse psychologique. J'ai trouvé ça intéressant, d'un point de vue de la mise en scène, d'un point de vue de l'histoire, de ce qu'on peut y mettre aussi comme une espèce de défouloir. Enfin, j'ai trouvé ça super.
Bah d'ailleurs, vous êtes aussi productrice, vous avez coproduit Dans la forêt de Gilles Marchand, c'est un thriller. Julia Kowalski aussi, Crash Cœur, elle a fait un film d'horreur il n'y a pas longtemps.
Ouais, ça c'est pas moi qui l'ai fait, oui, mais c'était au début de la boîte, c'était il y a longtemps et tout. Et maintenant, j'aimerais bien encore produire, mais je produis des jeunes réalisatrices, j'aimerais bien.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Bon, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. La presse t'aime bien, mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. On a mis le paquet sur le dernier, mais ça décolle pas.
Vous en avez vendu combien ?
Moins de 5 000.
Ah.
5 000, c'est pas totalement nul.
Ouais.
Certains s'en contentent. Mais c'est ton troisième livre.
Ok, et mon texte ?
C'est trop autobiographique.
Ah bon ?
Si tu veux mon avis, la rupture amoureuse, c'est pas une bonne idée. J'ai même le titre. Histoire d'une fin.
Mais c'est une histoire d'amour. La perte d'un idéal.
Paul, tu lis les infos ? On nous annonce l'apocalypse toutes les 10 minutes. Les gens, ils ont besoin d'énergie, d'espoir. Tu peux faire mieux. Réfléchis-y.
On entend Virginie Ledoyen et Bastien Bouillon dans votre film Valérie Donzelli à pied d'œuvre, adapté du livre éponyme de Franck Courtès, qui, je crois, était consultant sur le scénario et a pleuré sur le tournage.
C'est vrai.
Il le dit dans le dossier de presse,
oui,
vous
c'est
le
vrai.
Raconter parce que c'est assez joli.
Oui, oui, parce que Franck, donc c'est son histoire qu'il raconte dans son livre, donc pour moi c'est très important d'être fidèle à lui et de pas le trahir. Donc effectivement, je lui ai fait lire les différentes versions de scénario et puis on l'a consulté autour de questions qu'on maîtrisait moins bien, comme l'édition, le monde de l'édition, le système de la plateforme qu'il a lui utilisé. Et il est venu sur le tournage. Je crois que c'était la scène où il y avait l'armoire que Franck, enfin que Paul Marquet dans mon film était en train de monter. Et voilà, et ça l'a bouleversé. Il avait l'impression de revivre quelque chose, je crois. Donc il le dit assez joliment, mais qu'il était en train de pleurer, qu'il s'est caché pour aller pleurer.
Tous les acteurs qu'on voit dans ce film ont déjà joué pour vous. Et alors, oui. Il y a Bastien Bouillon que le grand public a en mémoire avec Partir un jour, dans lequel il chante, il danse, il saute et tout ça. Et là, il est tout en retenue, à tel point que j'ai même mis du temps à me rendre compte que c'était lui.
Ah oui ?
Ouais. Et vous le connaissez depuis 20 ans, mais quelle directive lui aviez-vous donné ?
Bah, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que Bastien, je trouve que c'est un acteur sur lequel on peut tout projeter. C'est comme une page blanche. Voilà, il a pas une identité sociale comme ça. Et il est discret, en plus, médiatiquement. C'est vraiment un acteur très caméléon, qui a une grande sensibilité. Et je voulais justement que Paul Marquet soit comme une espèce de miroir de l'autre. C'est-à-dire que quand il va chez les gens, il est comme le reflet de ce qu'ils sont. Et Bastien a très bien compris ça. Et il a interprété comme ça, dans une sorte d'infra-jeu, son personnage. Vraiment merveilleusement bien, quoi.
Alors, il n'avait pas lu le livre. Non. Lui, il a 40 ans. Dans le livre, Franck Courtès a 53 ans.
Ouais.
Et il a perdu du poids à votre demande pour le film.
Ouais, parce qu'il avait fait un autre film où il avait grossi.
Connemara. Et alors, c'est un personnage assez trouble. On ne sait pas vraiment ce qu'il ressent. S'il est triste de s'adonner à ses petits boulots, s'il est...
Non, il n'est pas triste. Il est à cet endroit, il ne se plaint pas. Lui, ce qu'il veut, c'est écrire et... Et puis il est obligé de le faire, puisque son livre, son éditrice lui dit « faut que tu retravailles », sauf qu'il n'a plus d'argent et il doit en gagner pour manger, donc il fait des petits boulots. Mais il ne se plaint pas, c'est juste qu'il découvre ce que c'est que démuni, quoi.
Alors sa famille ne le soutient pas vraiment, même si son père, joué par André Marcon, veut quand même un peu l'aider sans vraiment comprendre ce qu'il fait. Et il lui dit à un moment, pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche ?
Ouais.
Et je crois que vous avez perdu votre père au moment de l'écriture du film,
ouais.
Et que quand vous lui expliquiez ce projet, il vous a dit exactement la même chose.
Ouais, c'est vrai. Il m'a dit, mais pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche ? Qui va aller voir ça ? J'ai dit, bah écoute papa, j'écris les choses que j'ai dans mon cœur, quoi.
Franck Courtès dit que lui, il l'a écrit pour ses enfants et vous, pour votre grand-père.
Oui, pour mon grand-père, pour mon père, enfin pour toute ma famille d'artistes, parce que mon grand-père a été peintre et sculpteur, il a vécu de son art, mais voilà, il était très pauvre, il était immigré italien. Et mon père a beaucoup souffert, en fait, de la pauvreté dans laquelle il a grandi. Et quand moi, j'ai arrêté mes études pour être actrice, ça lui a fait peur, quoi.
Parce que votre grand-père, il a découragé votre père d'être artiste.
Ouais, mon grand-père lui a dit que c'était trop dur et il l'a découragé vers cette voie. Alors que mon père dessine très bien, je pense qu'il se serait... Enfin, peut-être après, c'est moi qui projette, mais je pense qu'il se serait épanoui à faire du dessin humoristique dans les journaux. Il dessinait vraiment très bien. Et d'ailleurs, quand il était à l'hôpital, c'est ça qu'il a maintenu, c'est le dessin.
Dans À pied d'œuvre, on sent aussi un peu un père empêché.
Oui, c'est évidemment, il y a beaucoup de moi dans le film, sans que ce soit totalement évident, mais évidemment qu'on sent ça chez André Marcon avec son fils. Peut-être qu'il aurait aimé écrire et qu'il ne se l'est pas autorisé, et que du coup, il a peut-être peur, il est peut-être jaloux, il est peut-être, enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair, oui.
En tout cas, vous montrez très bien l'ubérisation du travail. Ouais. Je ne sais pas si le site que vous montrez, le Jobbing, existe.
Non, non, ça c'est un nom qu'on a inventé. On était assez fiers de notre trouvaille.
Ouais, c'est pas mal, je l'ai cherché.
Ouais. C'est crédible.
Ouais, et puis on demande à des hommes à tout faire d'intervenir chez soi. Et ouais. C'est celui qui baisse le plus son prix qui remporte l'enchère.
Oui, alors maintenant, il n'y a plus d'enchères. Comme ça, c'est vraiment la plateforme que Franck a utilisée il y a quelques années, au début. Maintenant, c'est plus aussi officiellement... comme ça, organisé comme ça, mais le système reste le même puisque les gens proposent des tarifs. Donc ça se joue à 1 euro, 2 euros, mais on va choisir celui qui va mettre 16 euros au lieu de 18, quoi.
Il y a quelque chose dont on prend conscience aussi vraiment en regardant votre film, c'est le fait de plus avoir de... Enfin, à un moment, le héros dit qu'il est invisible à cause de son statut professionnel.
Oui, je crois que... c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un du service, donc on le regarde pas, on le...
Alors qu'il est écrivain.
Oui, il est écrivain, mais c'est surtout que les individus n'ont d'importance que par leur fonction sociale, d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'invisibles qu'on ne regarde pas.
Vous pensez que c'est très français ou que c'est dans tous les pays ?
Ah non, je pense que c'est partout pareil, non, je sais pas. Peut-être, c'est peut-être plus dans les pays très riches que dans les pays plus pauvres, je sais pas.
Est-ce que votre rapport aux gens qu'on ne regarde pas en temps normal a changé, vous qui avez aussi fait plein de petits boulots, notamment quand vous étiez au conservatoire, vous étiez vendeuse chez La Durée, agent d'accueil au Forum des Images.
Ouais. Non, mais moi, comme j'ai vraiment fait tous les boulots de la terre, j'ai été femme de ménage, j'ai été serveuse, j'ai fait beaucoup de trucs. J'avoue que je me sens toujours un peu du côté des employés plutôt que des invités, et j'aime bien discuter. Avec les gens qui sont les petites mains. Ça me plaît bien. Donc non, en général, bon après, je suis comme tout le monde. Hein, parfois, j'oublie de dire merci quand on m'apporte la carafe d'eau parce que je suis occupée, discute, distraite ou je sais pas quoi. Mais et puis j'aime, d'une manière générale, j'aime bien tout observer. Donc je regarde quand même. J'ai un peu les yeux grands ouverts sur tout quoi. J'aime bien observer.
Paul Marquet, il observe et notamment les pieds.
Oui, alors moi aussi j'aime bien regarder les chaussures des gens, pas les pieds, les chaussures, parce que je trouve que ça dit quelque chose d'un point de vue sociologique.
Ah oui ?
Bah oui, quelqu'un qui a des talons, c'est pas pareil que quelqu'un qui a des baskets. Ça raconte pas la même chose.
Qu'est-ce que vous avez comme chaussures là ?
Moi j'ai des bottines à talons.
Ouais, j'ai des baskets.
Voilà. Mais c'est sûr, je veux dire, quand on regarde les pieds, on sait, moi je regarde et je sais qui a en haut.
Ah bon ?
Ah bah oui, c'est évident. Les chaussures racontent beaucoup sur les gens.
Ça alors ?
Bien sûr, mais c'est la chaussure, il y a une variété de chaussures dingue. Il y a les nu-pieds, il y a les sabots, il y a les chaussures pointues, les chaussures... Enfin, on sait tout de suite à qui on a affaire.
Je suis contre les chaussures pointues.
Bah voilà, par exemple, les chaussures pointues, les hommes qui ont des chaussures pointues avec des petits bouts carrés, en général, c'est une certaine catégorie. Les mecs qui ont des espèces de baskets, machin... Enfin, on sait tout, quoi. Enfin, tout se voit à travers les pieds, à travers les chaussures, évidemment. C'est hyper important.
On pourrait ouvrir un commerce de voyance dans les pieds.
Non, non, mais d'abord, je trouve que la chaussure, elle a une histoire marrante, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que ça dit vraiment quelque chose, beaucoup plus que le manteau. Un manteau reste un manteau. Enfin, après, on peut avoir un manteau de fourrure, un manteau ceci, un manteau cela. Mais un manteau, bon, ça fait toujours à peu près la blague. Les chaussures, on voit tout de suite la chaussure cheap, la chaussure pas cheap, la basket machin, le truc ringard. Enfin, on voit tout avec les chaussures.
C'est dans le livre, les chaussures ?
Non.
C'est vous qui l'avez ajouté.
Ouais.
Ah, c'est drôle.
Enfin, il dit quand même que quand il rentre chez les gens, comme il ne les regarde pas dans les yeux, il baisse la tête pour voir s'il doit enlever ses chaussures ou pas. Parce que Paul Marquet, il a la conscience de ces choses-là. Il veut être courtois, il veut travailler, lui. Donc, il essaie d'être l'ouvrier parfait, quoi.
Il y a une scène terrible, d'ailleurs, où il va chez un écrivain qui a réussi, ouais. Qui est embarrassé par des buis.
Ouais, qui est déprimé par des buis.
Déprimé par des buis et qui empêche son chien d'aller sur le balcon parce qu'il ne veut pas que le chien se salisse.
Ben oui. Il n'y a pas de jugement sur cette personne. Lui, il est chez lui. Et puis, Christopher Thompson, lui, c'est un bourgeois. Il est dans son appartement et il dit à son chien, reste pas là, tu vas te salir. Évidemment, il va y avoir de la terre, il va rentrer, il va en foutre partout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est sa vie, en fait.
Alors, le héros a foi. Il croit en l'écriture. Et vous dites, en parlant de foi, que vous avez grandi au sein d'une fratrie de quatre et que le samedi soir, c'était messe obligatoire.
Oh, ah, ça, c'était la tanasse.
Alors, quel est votre rapport à la foi?
Ah non, mais moi je suis pas croyante, mais ma mère, elle était croyante et on allait à la messe le samedi soir et nous on voulait Dallas, on voulait regarder Dallas, c'était horrible, ça me déprimait. Et sinon on y allait le dimanche matin, je préfère y aller le dimanche matin. Non, je crois pas en Dieu, mais je suis croyante quand même. Je crois en l'amour, je crois en la vie, je crois en la chance, je crois en ligne de la main, je crois au tarot, je crois
au destin. Donc.
Au destin, je crois à tout ce qu'on peut croire sauf Dieu.
À un moment dans le film, c'est pas mal déjà. À un moment dans le film, Paul Marquet dit que les écrivains sont inaccessibles au découragement. Est-ce que vous le ressentez, vous ?
Ah ben oui, ça c'est une phrase que je trouve absolument démente parce qu'elle résume tellement les artistes, les acteurs, les danseurs, toutes les personnes qui ont comme ça justement ce feu chevillé au corps de faire des choses, de raconter des choses. Et c'est vrai qu'on est inaccessible au découragement, c'est-à-dire que on y croit qu'on va faire, qu'on va réussir à faire, qu'on va, bien sûr.
Bienvenue, c'est Joe.
Thank you.
c'est le standard de ce soir qu'on entend dans votre film à pied d'œuvre, Valérie Donzelli. Et voici un autre morceau qu'on entend dans le film.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Bonheur, c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale.
On entend quelques beaux morceaux dans votre film, une bande originale de Jean-Michel Bernard, composée de quelques notes, et Foule sentimentale d'Alain Souchon. Et vous soulevez qu'elle a été écrite dans les années 90, mais qu'elle décrit parfaitement ce qu'on vit aujourd'hui.
Ben oui, l'hyperconsommation, quoi. Ouais.
C'est quoi votre rapport à la consommation ?
Bah, je suis pas mieux que tout le monde. Hein. J'ai trop de chaussures. J'ai...
À bout pointu ?
Non, pas à bout pointu, mais non, je suis pas quelqu'un. Disons que j'ai des plaisirs simples, mais j'ai trop de choses, c'est vrai. Bien sûr.
Et je n'ai jamais, pour ainsi dire, jamais triché, qu'avec mon vrai visage et sous mon véritable nom. Je vais vous indiquer un moyen de tricher. Je suis le modeste inventeur. Pas d'ennemis autour de moi. Bon. Vous déposez devant vous un porte-cigarette en or brillant, au-dessus duquel étant banquier, vous faites passer, comme vous les feriez passer devant un miroir, les deux cartes que vous envoyez au ponte. Voici un valet de carreau. Voici votre première carte. Voici pour le ponte un as de pique. Et voici votre seconde carte. Renseigné désormais sur le point de votre adversaire, il vous sera loisible de tirer à 6 ou bien de rester à 4, avantage considérable.
Valérie Donzelli, là on entend un extrait de roman d'un tricheur de Sacha Guitry sorti en 1936, et vous dites que pour vous, l'écriture d'à pied d'œuvre se situe entre celle de ce film et de Antoine Ilois d'Agnès Varda.
Oui, c'est ce que j'ai imaginé tout de suite quand j'ai fermé le livre, parce que je trouvais le texte de Franck très beau. Et la façon qu'il avait de décrire justement cette ubérisation du travail, ce rapport à l'écriture, cette difficulté d'écrire, cette incompréhension de son entourage, enfin son histoire, quoi. Je voyais pas d'autres mots que les siens pour mieux le raconter. Donc je voulais garder son texte et je voulais qu'on l'entende.
En voix off, comme souvent
voilà,
dans vos films.
Exactement.
Comment vous avez trouvé l'équilibre entre votre adaptation et le vrai texte ?
Ah bah c'est très simple, c'est le texte de Franck, donc j'ai rien réécrit moi. La voix off, ça n'est que le texte de Franck. Et je voulais qu'on l'entende parce que je vous dis, il est vraiment très bien écrit. Et c'est pour ça que j'ai pensé au roman d'un tricheur, parce que c'est un film qui est entièrement raconté. Et pour ce qui est d'Agnès Varda, c'était le rapport au temps dans ce film et à la lenteur qui se déploie comme ça sur la descente d'un personnage. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite imaginé un film qui serait à peu près... entre ces deux cinéastes-là et ces deux œuvres.
Vous dites aussi que c'est la première fois que vous placez un héros masculin au centre de votre récit, mais que vous aviez envie de raconter un homme qui n'est pas dans une recherche de puissance.
Oui, justement, je trouvais ça beau de raconter, après avoir raconté la violence et la toxicité, comme on dit aujourd'hui, d'un homme, ben je trouvais ça intéressant de raconter aussi la douceur et la vulnérabilité d'un homme qui n'a pas envie d'être à l'endroit où on l'attend, c'est-à-dire un homme blanc puissant qui gagne de l'argent, et au contraire, il se positionne à un autre endroit, et c'est aussi pour ça qu'on le juge.
Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même une petite complaisance de sa part à être dans cette précarité ? Parce que je pense au fait que, par exemple, il ne va même pas au dîner des primo-romanciers où il est censé parrainer un jeune auteur. Il se sabote un peu en faisant ça.
Non, mais il n'y va pas parce qu'il se sabote, parce que... Vous savez ce que c'est, les mondanités, tout ça, quand on en...
J'en ai entendu parler.
Voilà, quand on est à l'ouest, qu'on n'a pas de fric, qu'on a froid, qu'on a travaillé toute la journée, qu'est-ce qu'on va aller faire semblant ? En fait, ça lui paraît absurde, quoi. C'est pas du tout qu'il se sabote, il se sabote pas. Et puis, lui, il est pas du tout dans la complaisance, parce qu'il aimerait bien ne pas être précaire, c'est juste qu'on ne paye pas pour écrire. Il n'est pas le seul.
Le filmer parfois avec un grain, enfin pas lui spécialement, vous filmez parfois avec un grain différent qui donne un côté nostalgique au film.
Oui, parce que ce qui m'intéressait aussi en adaptant le livre de Franck, c'était comment raconter le travail à tous ces endroits, et notamment le travail artistique. Et en fait, les écrivains, les cinéastes, les acteurs, enfin les personnes qui retranscrivent quelque chose, soit par les mots, soit par les yeux, soit par le corps, sont obligatoirement, je pense, des observateurs du monde. Et donc, ils travaillent tout le temps, en fait. Et cette observation, c'est comme une mémoire artistique. Donc, en fait, j'ai filmé les subjectifs de Paul en Super 8 pour les différencier de mon regard, moi, de cinéaste, du regard du film, en fait. Et pour presque raconter l'écriture sans montrer l'écriture.
Je connais Gérard depuis une pièce que nous jouions, que nous avons joué 9 fois, je crois.
9 fois, oui. On avait répété 4 mois et demi, je te signale.
Ah oui, je me rappelle plus.
Oui, à peu près.
Moi, j'avais un tout petit rôle, lui faisait le rôle de Talia pendant la Révolution, et je faisais le rôle de Henriot.
Et il rentrait, il avait un énorme chapeau avec des plumes bleu, blanc, rouge. Il rentrait très sérieusement en traînant un énorme sabre. À ce moment-là, la salle éclatait de rire, c'est-à-dire à peu près 15 personnes. Alors qu'on était 30 sur la scène.
C'est la première fois que je voyais un réalisateur rire vraiment à des choses comiques. Mais rire aux larmes, se mettre le mouchoir dans la bouche et foutre le camp dans le coin. Je me regardais de loin et se retourner pour ne pas rater la prise.
Alors Valérie Donzelli, vous opiniez du chef, vous les avez reconnus tout de suite puisque vous les adoriez très très tôt. C'est Louis de Funès et Gérard Houry sur l'ORTF en 74.
Ouais. Alors je les ai pas reconnus tout de suite, c'est marrant. J'ai mis du temps. Je sais quoi cette voix, je la connais. Et oui, je trouve que Gérard Houry, il a quand même fait partie de ces grands metteurs en scène de comédie qui ont été après. Pour moi, Jean-Paul Rapneau, avec beaucoup, beaucoup de rythme, une mise en scène assez, assez classique, mais hyper juste, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai revu La Grande Vadrouille, que je trouve vraiment irrésistible, quoi.
C'est Tout Feu, Tout Flamme et Le Sauvage que vous aimez de Rapneau.
Oui, tous les films de Rapneau, franchement, je les trouve tous bien.
Et est-il vrai que vous ne pouvez...
La vie de château, c'est magnifique, enfin, j'adore.
Est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez plus prendre de douche en fermant les yeux depuis que vous avez vu Psychose ?
Oui, moi maintenant quand même. J'ai un peu grandi, mais oui, ça a duré très longtemps, c'est vrai. J'aime pas trop ça, ouais.
Hommage à vos origines italiennes, Valérie Donzelli, c'est votre choix musical, Andrea Laszlo De Simone, Ricordo Tattile. Ça veut dire quoi, un souvenir tactile ?
Je sais pas, je parle pas l'italien, malheureusement. Ah bon ? Ouais. J'aurais bien aimé, mais non.
Alors pourquoi ce choix ?
Ah bah parce que je trouve l'album absolument magnifique, quoi. C'est exceptionnel. Alors j'ai choisi celle-ci, mais tout l'album s'écoute presque comme on regarde un film, quoi. C'est d'une puissance folle. Il a un talent fou, ce monsieur.
Et alors, en gardant justement cette idée d'image, vous avez choisi pour les auditeurs l'exposition de Claire Tabouret, qui est en ce moment au Grand Palais.
Ouais, que je suis pas allée voir encore, mais que j'espère pouvoir aller voir. Parce que je l'ai découverte il y a un petit moment maintenant, à Avignon. Je sais pas, c'était en 2018 peut-être ou... Et j'avais trouvé ça, mais incroyable, ces grands visages, ces couleurs. Enfin, je ne sais pas comment on fabrique ça à partir de rien, juste de la peinture, des pinceaux. Je trouve ça, pour moi, complètement énigmatique, quoi. Alors pourtant, j'ai eu un grand-père peintre, hein, mais je suis très, très admirative des gens qui savent dessiner, peindre. Je trouve que c'est magnifique d'avoir ce talent.
Merci beaucoup Valérie Donzelli.
Merci.
Je rappelle que votre prochain film à pied d'œuvre sera en salle le 4 février, donc plus que quelques jours pour patienter. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Loïs Moreau.